Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode d'Ella de la Voix. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de certains métiers de l'ombre, des personnes qui se donnent corps et âme tous les jours pour offrir le meilleur d'eux-mêmes, mais qui se font assez discrets. Dans ce podcast, je ne serai pas tout seul car en studio avec moi, nous retrouvons Chloé. Comment vas-tu ?
Bonjour, ça va super et toi, comment tu vas ?
Ben ça va super, merci. Comment tu te sens à l'approche de ces reportages ?
Bah écoute, j'ai vraiment hâte de tous les découvrir en ta compagnie.
Eh bien, ne perdons pas de temps et commençons tout de suite avec le premier reportage. Il est 3h du matin à la piscine municipale de Marcq-en-Barœul. Le silence est total, l'eau est lisse comme un miroir. C'est à ce moment précis que commence la journée d'Inelsie. Toute la nuit, seule au bord des bassins, elle dirige plusieurs robots nettoyeurs et analyse l'eau pour qu'elle soit parfaite à votre réveil. Rencontre avec une gardienne de l'ombre qui veille à ce que tout soit parfait pour vous baigner en toute tranquillité. Un reportage de Chloé Demory.
Nous allons retrouver Inelsie qui va nous expliquer comment a-t-elle trouvé ce travail assez méconnu.
J'avais une amie qui était à la piscine et qui m'a dit qu'il recherchait pour faire le nettoyage la nuit. J'ai été postulée, on m'a pris.
Désormais, nous allons en savoir un petit peu plus sur les formations ou qualifications que requiert ce travail.
On voit pas beaucoup de demandes d'embauche pour jeter des robots ou faire des échantillons dans les piscines. Et en plus, il faut passer une formation pour savoir faire les échantillons et je suis pas sûre que Pôle emploi, etc., il la propose. La journée, il y a les clients qui vont à la piscine et que les échantillons, pour éviter les bactéries, etc., elles se font avant que les gens aillent dans l'eau. Ils pensent souvent que les piscines elles sont nettoyées par les maîtres nageurs et je pense qu'ils se rendent pas compte que les échantillons ils sont faits genre toutes les nuits. La nuit, surtout dans ça, on est tout seul, donc on n'a pas besoin de penser ou de s'adapter au travail des autres.
Désormais, Inelsie va nous partager quelques anecdotes ainsi que le déroulé de sa nuit à la piscine.
On a une Alors, les robots, ils peuvent être soit faits automatiquement, soit manuellement. Donc, on prépare les robots. Donc, on met la rallonge qui va dans l'eau, hein, bien sûr. Et avec notre télécommande, on s'assure en lançant le robot dans l'eau, le robot d'ailleurs qui est très lourd, on lance dans l'eau et on fait aller avec la télécommande le robot pour qu'il avance, qu'il recule, qu'il tourne et on le remonte pour voir s'il a bien aspiré des saletés. Et après, on peut le mettre en mode auto et c'est comme ça qu'on sait qu'il fonctionne. Ça arrive souvent, les bidons de chlore, etc., qu'on doit remplir, ils sont dans les sous-sols. Et les sous-sols, c'est très rare qu'ils soient fermés à clé. Donc, ça arrive souvent qu'on croise des SDF ou des jeunes qui traînent, etc. Ça peut être dangereux si les personnes sont mal intentionnées. Souvent, les alarmes, elles se mettent en route. Genre, ça arrive souvent que les piscines, elles buguent et que les alarmes s'activent. Et donc, la police arrive et il faut faire tous les papiers avec la police pour prouver qu'on est, on travaille là. Privilégié parce que c'est plus intéressant de travailler tout seul. Et de toute façon, le lieu est trop grand pour qu'on commence à hurler. En plus, ça résonne. Et c'est plus apaisant de travailler tout seul avec le bruit, etc., de l'eau.
Merci beaucoup Inelsie de nous avoir parlé de ce métier peu connu, technicienne de piscine. Et j'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus.
On retrouve tout de suite Clara André qui nous emmène aujourd'hui dans les coulisses d'un théâtre pour découvrir ce que personne ne voit.
Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un théâtre, là où bien avant que le rideau ne se lève, tout se prépare dans l'ombre. Je rencontre Corentin Orlet, régisseur au théâtre Le Manège à Mons pour la Compagnie Mars. Depuis bientôt 2 ans, il s'assure que chaque spectacle puisse avoir lieu du début à la fin. Avant même que le public n'entre dans la salle, son travail a déjà commencé. Mais alors, que se passe-t-il vraiment avant un spectacle ?
La première chose qu'on fait dans la journée, pour que le spectacle puisse démarrer, on fait ce qu'on appelle une mise. En fait, on replace les éléments de la scénographie, donc du décor, à son endroit précis pour le début du spectacle. C'est pas forcément que le décor, ça peut être aussi des lumières qui bougent, des micros, etc. Donc on replace chaque élément du spectacle à son endroit pour le début du spectacle. On nettoie le plateau aussi pour que ce soit beaucoup plus propre et qu'on ne voit pas des traces de pieds, de chaussures. On vérifie que tout fonctionne au niveau du son, de la lumière, de la vidéo. Donc on envoie quelques effets pour vérifier que ça fonctionne bien. Souvent, c'est les effets où on attend une réaction du public. En lumière, on allume bien tout ce qu'il faut. Et puis, show must go on.
Mais pour que le show must go on, comme le dit Corentin, il faut surtout que le public soit avec les comédiens, totalement emporté par le spectacle. Et pour ça, il existe une petite technique presque invisible, la boîte noire. Mais qu'est-ce que la boîte noire exactement ?
Donc, pour que le public ait l'impression d'avoir vraiment cette boîte noire, de ne voir que les comédiens et le décor, ne pas voir tous les à côté techniques, donc on met en place ce qu'on appelle une boîte noire. C'est pour éviter ce qu'on appelle, nous, des découvertes. Donc c'est-à-dire qu'on vient mettre ce qu'on appelle des pendrillons et des frises. Alors qu'est-ce que des pendrillons et des frises ? Les pendrillons, c'est plus communément, tout le monde appelle ça des rideaux de scène. C'est une sorte de gros tissu noir, inifugé. Inifugé veut dire qui résiste au feu, parce que tout tissu qui entre dans un théâtre doit être résistant au feu. Donc on met en place ces choses-là à des endroits bien précis, pour éviter des découvertes, donc, et de voir par exemple un projecteur ou de voir les coulisses d'un théâtre et que le spectateur soit vraiment concentré et avec le comédien.
Tous ces gestes invisibles permettent au public d'être pleinement plongé dans le spectacle. La prochaine fois que vous irez au théâtre, regardez autour de vous. Eh ben, vous ne verrez rien. Et c'est justement grâce aux hommes et aux femmes de l'ombre que le show peut continuer.
Entre-temps, en studio, une invitée que vous connaissez sûrement toutes et tous nous fait le plaisir de nous rejoindre pour nous apporter son témoignage. Alors bonjour Aline.
Bonjour.
Pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes donc la technicienne de surface de la ELA sur le site de Tournai. Vous faites donc partie intégrante de la vie de cette école. Mais ça fait combien de temps ?
En fait, ça fait 3 ans et demi.
Et comment ça se fait ? Pourquoi particulièrement la ELA ?
En fait, c'est un hasard, en fait, parce qu'en fait, j'ai été licenciée d'un emploi précédent après 28 années de carrière. Et j'ai une connaissance dans les profs que je connais et qui m'a dit qu'ils cherchaient une femme de ménage. Et j'ai postulé et j'ai été prise, en fait.
Mais dites-moi, Aline, pour vous, c'est quoi une journée type ?
Alors, une journée type, c'est d'abord aller à l'essentiel, c'est d'abord le rangement de l'école. Après, c'est voir les priorités par rapport à des... Si, par exemple, il y a des locaux bien particuliers qui ont été réservés. Après, c'est dans l'ensemble, c'est une journée type, c'est à l'œil, en fait. C'est de voir là où il y a le plus de passages et faire les priorités, là où c'est plus sale, là où les élèves passent le plus souvent, dans les locaux comme le bar, à la rue Frinoise. Et surtout les toilettes.
Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Moi, c'est le contact avec les étudiants. En fait, je ne pensais vraiment pas avoir cette approche directe. Je pensais que j'étais vraiment allée travailler toute seule, mais je ne travaille jamais toute seule parce qu'autour de moi, j'ai plein d'étudiants, en fait.
Eh bien, merci beaucoup, Aline, pour votre retour d'expérience.
Merci à vous deux.
Passons tout de suite au prochain reportage.
Alors que la ville dort encore, certains sont déjà au travail. C'est dans la chaleur des fours que Valentine Ledan est partie à la rencontre d'un boulanger. Enchaînant les gestes précis, la fatigue et les nuits courtes, il travaille d'arrache-pied pour que le pain soit prêt dès le matin. Un métier essentiel, présent dans notre quotidien, mais dont le travail reste invisible. Avant l'aube, la boulangerie s'active déjà, loin du regard de ceux qui viendront acheter leur pain quelques heures plus tard.
Avant d'entrer dans le cœur du métier, direction les coulisses de cette boulangerie où chaque journée commence bien avant le lever du soleil.
Le lever est à minuit et demi. On commence à 1h à l'atelier, jusqu'à 9h au matin pour la production de pain et de viennoiserie. puis nous sommes en livraison de 9h jusqu'à 17h, puis rentrer, débarrasser le camion, 20h dodo, et relever à minuit. Et on recommence le rythme pour le lendemain.
Et la charge de travail ne diminue pas au moment des fêtes.
C'est un mois de décembre intensif pour nous, c'est 3 fêtes à la suite, nous, c'est travail, travail, travail. Le réveillon n'est jamais connu.
Derrière le pain que l'on achète chaque matin, on oublie souvent la réalité du métier de boulanger. Un métier qui a beaucoup évolué avec des horaires très chargés et un rythme exigeant.
Le métier artisanal du boulanger va disparaître de plus en plus si on ne fait rien pour essayer qu'un petit peu encore résister. On a une contrainte administrative importante par rapport à 10-15 ans dans le métier. La clientèle est différente par rapport à avant.
Sur le plan social, le boulanger est au cœur des échanges avec ses clients. Mais dès qu'il sort de sa boutique, participer à des sorties ou organiser des activités devient plus compliqué.
Du social, qu'on ne sait pas aller au resto du soir, c'est compliqué. Des journées sportives ou n'importe, c'est compliqué. Les gens ne s'imaginent pas le temps passé pour l'exécution des produits fournis. Si on veut encore de l'artisanat, qu'on produit encore tout nous-mêmes.
Malgré les contraintes du métier, certaines choses continuent de motiver au quotidien et donnent envie de recommencer chaque matin.
Quand on a un retour de clientèle, que le client est content, satisfait des produits fournis, et qu'on voit que le client revient régulièrement. C'est toute ma vie, on va dire, et c'est une passion. Depuis le temps que je suis tout petit, que c'est une passion. Sinon, je pense qu'on ne l'aurait pas fait.
Entre passion, rigueur et savoir-faire, cette boulangerie illustre un métier qui continue de nourrir bien plus que des clients.
Et merci d'avoir écouté cet épisode d'Ella de la Voix. J'espère qu'il vous aura ouvert les yeux sur les métiers dont on ne fait pas forcément attention. N'hésitez pas à aller découvrir les épisodes précédents si ça n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt.